Bienvenidos a este informativo de Radio France. Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, pour la rédaction roumaine, Vasile Damian.
Bună seara.
Vous nous en direz plus sur cette base militaire roumaine située au bord de la mer Noire qui va devenir la plus grande implantation de l'OTAN en Europe. Ubaldo Bravo, de la rédaction hispanophone.
Hola, muy buenas noches.
Avec des éléments de réponse à cette question. Est-ce que le refroidissement de la planète au XVIe et XVIIe siècle a pu être provoqué par la diminution de la population amérindienne? Et puis, Abdoul Karim Ibrahim, de la rédaction Naoussa. Bonsoir. Vous êtes avec nous, Abdoul Karim? Apparemment non, on va essayer de vous joindre, vous êtes en ligne de Dakar, c'est là qu'est implantée la rédaction en Naoussa de RFI. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est l'élection présidentielle qui va enfin se tenir au Sénégal, à suivre bien évidemment sur RFI, avec une élection inédite. D'ailleurs, d'ores et déjà, je vous signale que dans une heure maintenant, ce sera une première édition spéciale réalisée en direct de Dakar. Bien évidemment, ce scrutin présidentiel au Sénégal se déroulera après-demain. Tout au long de la journée, RFI vous le fera partager. Les résultats, les réactions, les commentaires, les analyses seront bien sûr à écouter sur notre antenne dans la foulée, ainsi que bien évidemment sur les supports numériques de la radio mondiale. Ubaldo, ce scrutin a lieu après de nombreux rebondissements et après la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomagné. Rappelez-nous pourquoi ces opposants étaient en prison.
Alors, le chef d'accusation a été d'appel à l'insurrection. Et pour ce qui concerne le cas d'Ousmane Sonko, il avait été accusé de corruption de la jeunesse. L'incarcération de ces deux hommes politiques a causé de révoltes car des millions de personnes sont descendues dans les rues pour les soutenir. Amnesty International estime qu'une soixantaine de personnes ont été tuées entre 2021 et 2024.
Pourquoi ces opposants ont-ils été autant soutenus?
Ousmane Sonko dit vouloir lutter contre la corruption. Dans ses discours, il parle notamment des malversations financières et d'évasion fiscale de la part du gouvernement des Macky Sall. La bataille des opposants est donc devenue une lutte pour sauver la démocratie sénégalaise. Pour mieux connaître l'importance de Sonko et Diomé, pourquoi leur libération a été si importante, nous avons interviewé le directeur de la Fondation Exaleï, Sherif Samseddine Sarr, qui soutient Sonko et qui parle un excellent espagnol.
No ha sido una liberación de solo dos oponentes al poder político de Senegal. Ha sido como una liberación de todo el país, porque son el líder de la oposición, Ousmane Sonko, y el candidato a la elección, Bassirou Diomaye Faye.
Aidez-nous à comprendre, Ubaldo.
Il ne s'agit pas de la libération des 12 opposants, il s'agit de la libération du pays. C'est ça que vous venez d'entendre. Samseddine Sarr considère que les Sénégalais avaient perdu l'espoir et que certains pensaient que la violence serait la seule arme pour changer le pays. Samseddine Sarr est persuadé que si les opposants n'avaient pas été libérés, la violence aurait augmenté. Même si les tensions se sont calmées, il nous a aussi dit que les Sénégalais sont dans l'incertitude de ce qui va se passer dimanche prochain. Écoutons-le.
Dado la experiencia electoral de Senegal, que siempre el día de las elecciones la gente va a votar y vuelve a su casa tranquilamente, pero estamos en una situación tan compleja donde yo, por ejemplo, ahora no podemos.
Là aussi, quelle est l'analyse de cet expert?
Il nous a dit que dans les élections précédentes, les personnes allaient voter et puis retourner chez eux tranquillement. Pour ce dimanche, il espère que les résultats soient respectés. Il considère que les Sénégalais n'en peuvent plus de la crise politique des dernières années. Et selon lui, cette élection pourrait être un nouveau point de débat de départ pour les Sénégalais.
Abdoul Karim Ibrahim, on vous a retrouvé, donc c'est en ligne de Dakar. Cette élection est inédite, elle fait suite à des mois de tension, on vient de le voir, hein, avec la situation notamment des opposants qui ont été emprisonnés puis libérés.
Oui, la campagne électorale qui n'a... Oui, je vous entends bien.
Allez-y.
Comme je disais tantôt, la campagne électorale qui n'a duré que 10 jours tire à sa fin pour faire place au scrutin de la présidentielle prévu ce dimanche 24 mars 2024. Près de 7,3 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Un scrutin qui devait se tenir depuis le 25 février dernier, mais reporté par le président sortant Macky Sall. Ce report rend cette élection inédite, surtout qu'il a failli entraîner le pays dans une crise politique. En effet, aucun des deux principaux poids lourds de la scène politique du pays ne prendra part à ces présidentielles. Je parle ici du président Macky Sall, qui a renoncé à briguer un nouveau mandat, et l'opposant Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Autre chose qui rend ce scrutin inédit, ce sont donc les candidats. Leur nombre est de 18. Ils étaient 5 lors de la dernière élection tenue en 2019.
Venons-en au mode de scrutin. Quel est-il, Abdoulkarim?
Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Et si aucun des candidats n'a réussi à recueillir plus de 50% des voix, il faut obligatoirement aller au second tour pour départager les deux candidats ayant obtenu le grand nombre de voix au premier tour. Initialement, le mandat du président de la République au Sénégal était 7 ans. C'est le sortant Macky Sall qui l'a réduit à 5 ans, renouvelable une seule fois, suite au référendum constitutionnel organisé en 2016.
Alors, je le disais, la date du scrutin a été annoncée après plusieurs mois de tensions dans le pays. Il y a eu ses opposants qui ont été emprisonnés, puis libérés. Comment est-ce que vos auditeurs apprécient ce processus électoral engagé par le Sénégal ?
Oui, la date du scrutin a été annoncée après plusieurs mois de tensions dans le pays. La tension a fait suite aux doutes qui planait sur la possible candidature pour un troisième mandat du président Macky Sall, mais aussi des arrestations des opposants et des acteurs de la société civile. Mais d'une manière générale, on peut dire que le processus s'est passé bien. La campagne électorale s'est déroulée dans une atmosphère apaisée et sans violence. Le candidat qui tente de convaincre toujours les électeurs ont eu l'occasion quand même de sillonner presque tous les pays sans aucun incident.
Encore une chose, le Sénégal, c'est un pays qui n'a connu que des régimes démocratiques depuis son indépendance en 1960. Qu'est-ce qui fait de ce pays un modèle de démocratie et de stabiliser en Afrique ?
Effectivement, le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique. Contrairement à de nombreux pays de la région, ce pays n'a jamais connu de coup d'état militaire. Quelque chose de rare en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc, les quatre présidents qui connaissent le Sénégal ont tous été démocratiquement élus. Ça n'a pas été simple cette fois. Après une période de troubles suite au report de la présidentielle en février dernier, le Conseil constitutionnel a tranché en annulant le décret du président Macky Sall et en déclarant cela contraire à la loi fondamentale. Et avec toutes les manifestations qui ont été organisées, qui étaient d'ailleurs très violentes, où des dizaines de personnes ont perdu leur vie à Dakar et dans d'autres villes, il faut reconnaître que ce pays reste un modèle de démocratie sur le continent et évidemment pour l'Afrique francophone.
Vasile, en Roumanie, on s'intéresse guère à ce scrutin qui aura donc lieu après-demain au Sénégal.
En effet, Philippe, et pourtant les relations entre les deux pays sont en train de se renforcer. En novembre dernier, le président roumain Klaus Iohannis a fait une visite à Dakar. Il a déclaré à cette occasion que le Sénégal est une priorité pour nous les Roumains, sur le continent africain. Il faut dire qu'en 2014, au moment du sommet de la francophonie que j'avais couvert à l'époque, j'ai rencontré des Sénégalais qui avaient étudié en Roumanie au temps du communisme et étaient maintenant bien placés dans les sphères dirigeantes du pays. Ils avaient même créé une sorte d'association des anciens de Roumanie et certains d'entre eux parlaient le roumain presque aussi bien que moi. C'est dire que cette relation est en et que donc le scrutin qui s'y joue dimanche mérite d'être regardé de plus près.
La presse roumaine ne s'est pas beaucoup penchée sur ce scrutin, mais auparavant elle a été prompte à évoquer la crise politique, on le disait tout à l'heure, déclenchée par la décision du président Macky Sall d'ajourner le scrutin, une décision qui a donc été révoquée ensuite par la Cour constitutionnelle.
En effet, en lisant la presse roumaine du début du mois de février, j'ai constaté que la décision de Macky Sall, l'ajournement donc du scrutin présidentiel, une première dans l'histoire du pays, avait attiré l'attention de mes confrères de Bucarest. Le Sénégal est au bord du gouffre après la décision du président d'ajourner les présidentielles, pouvait-on lire. Ou encore, la réputation du Sénégal comme étant le bastion de la démocratie dans une région instable est en danger. Le pays est confronté à un test critique pour son intégrité électorale et pour l'indépendance de sa justice, pouvait-on encore lire. Quand, deux semaines plus tard, la Cour constitutionnelle a donc invalidé la décision du président sortant, les commentaires dans la presse roumaine sont revenus pour saluer cette annonce permettant donc au scrutin de se dérouler en temps et en heure.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'instant, hein, sur cette élection présidentielle qui aura lieu après-demain donc au Sénégal. Et dans pile une heure, RFI vous propose une première édition spéciale dans le cadre d'Afrique Soir.
Dakar, 92 FM.
Kaolack, 91.5 FM.
Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 degrés Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
RFI dans toute sa diversité, avec la rédaction Naoussa, revenons maintenant sur le fait que la junte au pouvoir au Niger a annoncé le rejet de l'accord militaire autorisant la présence d'Américains, qu'ils soient civils ou militaires, travaillant pour le gouvernement. Pour parler de cet accord de défense entre le Niger et les États-Unis et les impacts dans la région, au cas où la rupture se concrétiserait, Abdoul Karim Ibrahim, rédacteur en chef adjoint du service Naoussa de Radio France Internationale, basé en Afrique. Abdoul Karim, première question, remettre en cause cet accord passé en 2012, est-il un coup dur pour les deux pays ?
Tout à fait. Il faut dire que c'est un coup dur pour les deux parties. Commençons par le Niger, cet accord prévoyait entre autres la formation des forces spéciales et un appui au renseignement et un appui aux équipements. Et peut-être, c'est le lieu de rappeler ici qu'au terme de cet accord, Washington a déjà doté les forces armées nigériennes des moyens de transport aériens, trois avions type C-130 qui sont importants pour mener des opérations. Les rejets de cet accord constituent aussi un coup dur pour la partie américaine, parce que la base d'Agadez est l'une des plus importantes bases américaines en Afrique. Cette base de drones est utilisée par les États-Unis pour recueillir des renseignements et d'autres informations utiles à la lutte contre les djihadistes dans le Sahel et les trafics illicites de tout genre.
Alors venons-en peut-être maintenant aux conséquences concrètes pour le Niger que ça pourrait avoir.
Évidemment, il y aura des conséquences sur les plans sécuritaires. Le Niger est un pays très vaste avec une superficie de plus de 2 500 000 km carrés. Il partage des frontières avec des pays comme déjà confronté à des graves problèmes d'insécurité, tels que le Nigeria au sud avec plus de 1500 km de frontières, la Libye au nord et puis le Mali et le Burkina, des pays infestés par les djihadistes. Toujours au plan sécuritaire, cette décision met un fin à la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, intervient quelques mois après le départ des troupes françaises. Ce départ a sans nul doute laissé un vide plus précisément dans la partie ouest du pays, communément appelée la zone des trois frontières.
D'autres conséquences seront certainement la perte de l'emploi pour les gens qui travaillent sur place également. Hein.
Effectivement, selon les estimations, dans une seule base américaine installée à Agadez au nord du pays, plus de 500 employés, tous des nationaux algériens, y travaillent sous contrat. Et toutes ces personnes, aujourd'hui, risquent de perdre leur emploi. M. Galio fait partie de ces travailleurs locaux. Il s'inquiète de l'avenir de son emploi.
On va l'écouter.
Niger tachi on fa nuun nan zaman nasa de sikena. Muta ni siga ama junun siga sikia. Dio atala kawa loka le nawa siki.
Que dit-il ?
Ce qu'il dit, il faut qu'on se dise la vérité. Le Niger a beaucoup bénéficié de ces coopérations. Beaucoup de personnes ont été embauchées par des Américains. Cet accord reste utile pour... Nous, les Nigériens, on ne comprend pas du tout. On se réveille un matin pour remettre en cause cet acquis. Nous souhaitons que les deux parties vont bientôt s'entendre et continuer à travailler ensemble. Chacun de ces pays a besoin de l'autre, selon ces messieurs.
Et puis, réaction.
Dans le riz d'Agadez, les avis sont divisés. Il y a ceux qui soutiennent cette décision prise par les autorités de Niamey quand même.
Que dit ce Nigérien?
Oui, ils disent que ça fait longtemps, ça fait des années que le Niger coopère avec les Américains, mais la question de l'insécurité n'est toujours pas réglée. D'autres intervenants exigent même le départ sans délai des troupes américaines et de toutes les forces étrangères du territoire du Niger. Selon eux, la question de la sécurité ne doit pas être confiée à des étrangers.
Est-ce qu'il y a une possibilité pour que le Niger et les États-Unis trouvent un terrain d'entente dans le but de sauver cet accord?
Il est difficile de répondre à cette question, mais déjà les porte-parole du département d'État américain et le Pentagone ont tous affirmé avoir pris connaissance de cette décision de Niamey. Cette rupture fera suite, selon Washington, à des discussions franches sur le rapprochement entre la junte au Niger et les pays comme la Russie et l'Iran. La sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines l'a fait savoir à ses interlocuteurs. Il faut rappeler qu'en janvier dernier, le Premier ministre nommé par la junte a effectué une visite de plus de 10 jours à Moscou et à Téhéran, où selon des sources, des accords auraient été signés discrètement. Mais ici, on parle de l'une des plus importantes bases américaines au monde, la deuxième sur le continent africain. C'est une base qui a coûté plus de 5 millions de dollars pour sa construction. Donc, on imagine qu'il va y avoir de féroces négociations pour tenter de sauver cette base.
Voilà, c'était Abdoul Karim Ibrahim de la rédaction RFI en Aoussa, basée à Lagos. La Roumanie va accueillir, elle aussi, la plus grande base de l'OTAN en Europe. Cette décision n'est évidemment pas étrangère à la guerre en Ukraine, qui est toute proche de la Roumanie. En réalité, la base en question existe déjà, mais elle sera largement agrandie et puis modernisée. Vasily Damian de la rédaction roumaine, où est-ce qu'elle se trouve précisément?
Eh bien, il s'agit de la base aérienne numéro 57. Elle se trouve en Roumanie, dans une petite localité nommée Mihail Cogălnicianu, à quelques kilomètres du port de Constanța, le plus grand port roumain sur la mer Noire, devenu, on le sait, stratégique depuis le blocus russe dans la région et essentiel pour l'exportation des céréales ukrainiennes. On parle donc plutôt d'une extension, d'un agrandissement considérable de cette base qui aujourd'hui accueille déjà environ 5000 soldats de l'OTAN, essentiellement des Américains. À terme, à l'horizon de l'an 2040, elle accueillera deux fois plus de militaires avec leurs familles. La base deviendra donc une petite ville militaire de 10 000 habitants, étendue sur environ 3 000 hectares avec, côté militaire, des nouveaux hangars, des dépôts de munitions et de combustible, des simulateurs de vol, une nouvelle piste, en plus de celle existant déjà sur site, pour pouvoir faire décoller bien sûr et atterrir tout type d'avion. Certains hangars seront construits à la hauteur des gros porteurs militaires. La base aura son propre service de sécurité, notamment une police militaire, ainsi que des moyens de défense anti-aérienne.
Et côté civil?
Eh bien, on va construire deux crèches, deux maternelles, une école, deux hôtels militaires, un hôpital et bien sûr des divers commerces. Pour l'espace détente, on a prévu des terrains de sport, une salle de sport, un bassin couvert et des espaces verts. Je vous propose d'écouter Nicolae Crețu, commandant de la base numéro 57, au micro de nos confrères d'Euronews.
În afara capabilităților bazei 57 aeriană, pe locația noastră se mai află dislocate și noi suntem atât în acest moment
pregătiți. C'est le commandant de cette base qui parle et que dit-il?
Eh bien, il nous dit que ses équipes sont prêtes à élargir la base et ses infrastructures, non seulement pour les forces aériennes alliées, mais aussi pour les forces terrestres ou des forces spéciales ou toute autre force dont on aura besoin pour donner une réponse en fonction, bien sûr, du contexte sécuritaire. Les investissements évoqués par la presse roumaine et occidentale pour élargir cette base roumaine s'élèveraient à 2,5 milliards d'euros.
Alors cette extension fera de cette nouvelle ville également un pôle économique dans cette région, une région plutôt désertique de la Roumanie.
En effet, les 10 000 militaires et leurs familles devront se nourrir, s'habiller et s'amuser. Pour pas mal de secteurs d'activité, l'extension donc de la base de Cogălnicianu sera bienvenue, bénéfique d'un point de vue économique. Bénéfique, elle le sera aussi en termes d'emploi, car on aura besoin de personnel pour entretenir et faire tourner cette base. On parle là de quelques milliers de postes postes à pourvoir. Enfin, le port de Constanța, tout proche, comme je le disais, devenu stratégique depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, verra ses capacités aussi augmenter. Les travaux à la base numéro 57 ont commencé en 2019, mais on ne sait pas dans quel état d'avancement ils sont, car c'est une donnée secret défense, dit le ministère de la Défense roumain. Par contre, la fin des travaux est donc prévue pour 2040, quand Mihail Kogălnicianu deviendra la plus grande base de l'OTAN en Europe. Aujourd'hui, cette première place est occupée par la base américaine de Ramstein, en Allemagne. Cette base, construite au début des années 50, est utilisée aujourd'hui pour des missions en Afrique, au Moyen-Orient et, évidemment, en Europe de l'Est.
Juste une petite question, pourquoi cette base s'appelle ainsi? C'est le nom de qui?
C'est le nom d'un historien écrivain roumain qui date du 19e siècle.
L'annonce concernant l'extension de cette base survient au moment où deux nouveaux venus sont rentrés dans l'Alliance Atlantique, dans l'OTAN. C'est la Finlande et la Suède.
Et ces deux pays, il ne faut pas l'oublier, ont demandé leur adhésion à l'OTAN suite à l'invasion russe en Ukraine. La Finlande a rappelé à cette occasion qu'elle a une frontière de 1300 km avec la Russie grâce ou à cause de son entrée dans l'OTAN, les frontières de l'Alliance avec la Russie ont ainsi doublé. Avec l'extension de la base Mihail Kogălnicianu, les alliés consolident donc un flanc est de l'Alliance. Les commentateurs roumains parlent déjà d'un bouclier contre la Russie pour décrire cette extension importante. La Roumanie, n'oublions pas, sert déjà de base arrière pour de nombreux militaires de l'OTAN, la France étant sur place nation cadre, comme on le dit, pour le groupe tactique allié qui comprend, outre les soldats français, des Belges, des Polonais, des Portugais et bien sûr des Américains. Avec une telle base à deux pas, plus exactement à 300 km à vol d'oiseau d'Odessa, l'OTAN semble parier sur un enlisement et durcissement durable du conflit russo-ukrainien. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'Andrei Klimov, vice-président de la Commission des affaires étrangères du Parlement russe, la Douma, menace déjà cette base militaire anti-russe. Selon l'officiel de Moscou, cité par la presse roumaine, plus cette base va s'étendre, plus augmentent les chances qu'elle soit parmi les premières cibles de rétorsion.
Vasile Damian, de la rédaction roumaine de Radio France Internationale. Avec Ubaldo Bravo, de la rédaction en espagnol, intéressons-nous maintenant à l'arrivée des Européens en Amérique et au changement climatique. Alors, quel est le rapport? En effet, il est possible que les massacres et les pandémies des Amérindiens lors de l'arrivée de ces Européens sur le continent aient provoqué la baisse de la concentration de CO2. Ce serait là une hypothèse qui ressort d'une étude scientifique qui vient d'être publiée, Ubaldo.
Oui, Philippe, c'est ce que suggère cette étude publiée dans Nature Communications qui a été menée par un groupe de scientifiques britanniques et américains. On savait déjà qu'à l'époque de l'arrivée des Européens, la concentration de CO2 était presque la moitié que celle d'aujourd'hui et donc les températures étaient beaucoup plus froides. Concrètement, ils ont démontré qu'entre le 16e siècle et le 17e siècle, il y a eu une chute de la concentration de CO2 d'environ 3%.
Alors comment ils sont arrivés à ce constat, à ces résultats, ces scientifiques?
Alors pour cela, ils ont analysé des bulles d'air où il y avait du CO2 enfermé depuis la Renaissance. Ils ont fait sortir ces bulles d'une carreau de glace de l'Antarctique et alors ils ont découvert qu'au 16e siècle, la concentration était de 285 particules par million ppm. Et vers la fin du 17e siècle, cette concentration est tombée de 8 unités. Et la période analysée est connue comme le petit âge glaciaire et ces résultats contribuent d'ailleurs à mieux comprendre cette partie de l'histoire de la Terre qui va du 14e siècle au 17e siècle. Mais Philippe, j'aimerais souligner que pour l'instant, les chercheurs n'ont pas de réponse pour expliquer pourquoi les concentrations de CO2 sont descendues et pas de réponse non plus pour savoir pourquoi la planète se refroidit.
Alors pas de certitude, mais malgré tout, il y a des hypothèses.
Oui, les chercheurs proposent des hypothèses et celle qui a fait couler beaucoup d'encre a été celle de la prolifération de la végétation dans tous les continents. Après la mort d'environ 60 millions de personnes, victimes d'épidémies ou de massacres, les terres des Amérindiens auraient été dévorées par la végétation. Imagine, Philippe, des millions d'arbres en train de pousser sous les ruines des Incas ou des Mayas ou des Aztèques, ou la jungle de l'Amérique centrale en train de chercher une sortie vers le sud du continent. Alors, cette espèce de végétalisation massive aurait favorisé l'absorption des quantités importantes de carbone.
Et d'ailleurs, c'est cette profusion de la végétation qui fait que, par exemple, le Machu Picchu ou bien les pyramides aztèques étaient recouverts de végétation jusqu'à il y a quoi, une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Et aujourd'hui, on les voit au jour. Pour l'instant, nous parlons d'une recherche menée par des climatologues. Qu'est-ce qu'ils disent, les historiens, eux, sur les transformations de l'environnement lors de l'arrivée des Européens en Amérique, Ubaldo ?
Alors, je te propose d'abord de parler des Caraïbes. Christophe Colomb a convaincu ses financiers d'y aller pour cultiver la canne à sucre vers la fin du XVe siècle. Et l'une des remarques qu'il a faites sur le climat était justement qu'il y avait des pluies incessantes. Ne vous inquiétez pas, il a dit quelque chose comme ça pour le rassurer. Nous allons déforester comme nous l'avons déjà fait dans les îles Canaries et comme ça, les pluies vont reculer. Et oui, les Européens de cette époque croyaient que la déforestation améliorait les terres, soit pour les refroidir ou les chauffer, notamment les Français les Anglais au nord d'Amérique. Dans les Caraïbes, il y a eu effectivement un effondrement de la population locale, mais la récupération était rapide. Et c'est l'analyse de Pedro Urquijo, professeur d'histoire de l'environnement à l'Université nationale autonome du Mexique.
Efectivamente, hubo lugares donde la población nativa se exterminó, el Caribe es el caso, y hay otros lugares donde las epidemias y las matanzas de los colonizadores tuvieron cierto periodo, pero
alors,
también
que dit-il, cet expert?
Pedro Urquijo précise que par endroits, certainement, la population a été exterminée, soit par les massacres ou les épidémies, mais la récupération, Philippe, la récupération démographique était rapide. On parle de décennies. Les domaines agricoles n'ont pas été abandonnés, dit-il. Il n'y a pas eu d'endroit complètement abandonné après l'arrivée des conquistadores.
Alors, l'hypothèse dont nous avons parlé, excusez-moi, n'est pas valable pour l'historien.
Et pas du tout. Pour lui, c'est l'opportunité de mener des travaux transversaux, interdisciplinés, côté science et côté histoire, parce que les changements introduits par les Européens ont été très différents selon les régions. Et aussi, l'historien a souligné qu'il faut prendre en compte les activités économiques importées par les Européens, notamment l'agriculture extensive, on l'a évoqué avec les cas des Caraïbes, l'élevage et surtout l'exploitation minière. Il s'agit d'activités très émettrices de gaz à effet de serre, comme le CO2.
Alors justement, c'est grâce aux travaux des historiens et des climatologues que nous savons aujourd'hui que le vertigineux réchauffement de la planète a commencé avec la révolution industrielle vers le 18-19e siècle.
Oui, tout à fait. D'un côté, les historiens ont bien documenté comment la planète a été bouleversée par l'extraction d'énergie fossile, notamment le pétrole. Et de l'autre côté, les scientifiques ont développé des modèles pour expliquer comment les émissions des gaz à effet de serre sont en train de modifier le climat de la Terre. Les historiens et les climatologues, ensemble, seraient une super équipe pour proposer des solutions.
Ubaldo Bravo de la rédaction en espagnol de RFI. Justement, dans RFI Soir, dans un quart d'heure à peu près, nous irons au Danemark où se tient la COP29 et nous retrouverons l'envoyé spécial de RFI sur place. Durant cette action du monde, sachez qu'il se passe des choses du côté de Moscou, en tout cas des environs de Moscou, au Crocus City Hall, près de la capitale russe. Une fusillade a eu lieu dans une salle de concert. Des hommes armés et habillés de treillis ont ouvert le feu. Et la dernière information qui provient de l'agence TASS annonce des morts parmi les victimes de cette fusillade, donc dans une salle de spectacle près de Moscou. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. D'ici là, un peu de musique avec MC Solar et ce titre Pierrefeuille.
Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le Pao, de quoi faire tomber KO pour la France et Jendao. Diplôme du Mat Macao, c'est Ying, c'est Yang, c'est le Tao. Le son est chaud cacao, Pierrefeuille vient de Tao. Pour flex, pour le flow, apporte des glaçons d'Oslo. Sauborne en portant de l'Oxbo, glisse tout chaud sur de l'Oxmo. Fuck le yacht, pédalo, petit verre, mentalo. Prends le temps de dire hello avec le maillot yellow. Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le Pao. De quoi faire tomber KO, pour la France c'est Jendao.
Vous écoutez Radio France Internationale.